britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Je veux d'abord vous féliciter de votre initiative ce matin pour l'affaire du père Bimich. Mais il est bien regrettable qu'un Chinois ait été tué.
Un boxer ?
Un sujet chinois, commandant. On n'est pas au Far West ici, vous savez. On ne peut pas tirer sur les Chinois comme sur des peaux rouges, non.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, la Chine m'inquiète. Le sinologue Jean-Luc Domnac, en donnant ce titre à l'un de ses ouvrages les plus récents, en le reprenant tel quel au romancier Jean-Louis Curtis, qui avait baptisé de la sorte voici 40 ans un précieux livre de pastiche, Jean-Luc Domnac a ramassé d'une formule frappante un sentiment dont on discerne aisément l'expression diffuse en Occident. Un sentiment que nourrit entre rejet et fascination le formidable essor économique de l'empire du milieu, comme on disait autrefois, phénomène majeur des premières années de notre 21e siècle. Un sentiment qui renvoie tout droit à une formulation brutale qui a fait florès au tournant des 19e et 20e, entendez, le péril jaune, où l'on mêlait d'ailleurs les Japonais et les Chinois. Ainsi, le goût vient-il d'aller y voir de plus près, d'en analyser les ressorts, les conséquences, en France et dans l'Occident tout entier. Le péril jaune, l'historien François Pavé, qui est mon invité ce matin, a consacré récemment un travail original à l'émergence et au développement d'un effroi dont l'intensité nous paraît rétrospectivement impressionnante. Très daté à certains égards, certes, en un temps où la colonisation développée par les puissances européennes se nourrissait de la conviction d'une supériorité de la race blanche, comme on disait alors. La colonisation, à proprement parler, n'est plus. Et pourtant, pouvons-nous affirmer que n'ont pas continué de cheminer en profondeur nombre de ces sensibilités collectives que marquèrent jadis les dénonciations, graves ou frivoles, simplistes ou savantes, d'un angoissant péril jaune ?
Ce marchand de chaussures n'est pas sûr, je t'assure, avec sa jambe de verre, son œil de bois. Il n'a pas le teint du Rhône, il a même le teint jaune, cet homme-là, méfie-toi, c'est un Chinois. Tu sais bien ce qu'on raconte, à coup sûr, sur son compte, des histoires de voleurs de hors-la-loi. Paraît que c'est une fine lame qu'il aurait tué sa femme. Elle disait en mourant, c'est le Chinois. S'il se donne l'air paterne, c'est qu'il met en lanterne tout son être et jusqu'au son de sa voix. Il fait bon qu'on le déteste, qu'on le fuit comme la peste, comme on doit fuir, je crois, certains Chinois. Que fume-t-il dans sa pipe de l'opium, en principe dont il fait le trafic, ça va de soi. Quand il dit sa prière, assis sur son derrière, il prie qui ? Le Bouddha, un dieu chinois. Regardez son échoppe, quel milieu, interlope des gitans, des indiens de je ne sais quoi. Resté seul, il s'empresse de ne lire qu'une presse, qu'un journal, le canard en chinois. Il fait le ressemblage en papier d'emballage, il se nourrit de riz frit au petit pois. Il raconte même, il ose dire qu'il vient de Formose pour qu'on croie qu'il n'est pas un vrai chinois. Quand il met une assiette tout en haut d'une baguette, une assiette un dessous de plat. Elle tourne en roue libre, maintenue en équilibre. Il suffit qu'il agite un peu les doigts. Parfois il court la lande, disposant des guirlandes qu'il étale jusqu'au fond du petit bois. Et près du précipice tire un feu d'artifice en criant « La poudre, invention de chinois !» Faisons vite, on cachette une collecte, qu'on lui achète un billet d'émigrant, il y a droit. Offrons-lui un passage pour Pékin, ou plus sage pour Pantin, au fond du quartier chinois. Qu'il s'en aille, Rome ou Sparte, l'important, c'est qu'il parte, car s'il reste dans 10 ans, oui ma foi, il est capable d'atteindre son but, qui est de l'éteindre sur nous, et on sera quoi, tous des Chinois.
François Pavé, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je vous ai proposé une chanson de Charles Trenet, le Chinois, vous la connaissiez ?
Non, je ne la connaissais pas en fait.
Elle me paraît propre à ouvrir notre conversation car on y trouve un certain nombre de clichés portés évidemment et subsumés par le talent de Charles Trenet. On voit le Chinois qui à la fois se dissimule, représente un danger démographique, un danger économique qu'il faudrait peut-être envoyer chez lui. Formose, dit-on, ce qui est une formulation évidemment européenne. Vous retrouvez là les éléments de ce péril jaune que vous avez analysé avec tant de sagacité?
Alors je retrouve effectivement beaucoup d'éléments, de stéréotypes véhiculés sur la Chine. En particulier, ce que je trouve intéressant, c'est que le Chinois est un marchand. Et donc l'idée, c'est d'abord le péril jaune, c'est d'abord un péril économique avec le problème commercial. Et il est à la fois économique et démographique dans la mesure où là, il s'agit d'un marchand implanté en France, à Paris visiblement.
Dans le quartier chinois éventuellement, qu'il va développer.
Voilà. Et donc, avec la crainte après du métissage et le fait que le Chinois puisse déteindre sur la culture occidentale.
Il se dissimule de surcroît, ce qui est très méchant.
Voilà, c'est le propre du Chinois. On le voit à peine, mais pourtant, il est bien là.
Il y a même un péril de concurrence esthétique avec l'image de celui qui joue avec des assiettes au bout d'un bâton.
Voilà, il y a tous les stéréotypes. On a à la fois le cirque, on a le bouddhisme avec la prière, le trafic de drogue, le trafic d'opium, ça renvoie à l'idée de la guerre de l'opium, et puis après, avec les dangers de l'opium en Chine. Mais vraiment, l'idée du marchand est intéressante et un peu prémonitoire, puisqu'aujourd'hui, la présence des Chinois est très importante dans le domaine du cuir, en Occident et en particulier en France. Et donc, je trouve ça assez étonnant que Charles Trenet, déjà dès l'époque, ait pu voir que le danger était d'abord dans le domaine du cuir, puis de la confection, et donc la présence chinoise puisse constituer une réelle menace.
Bien au-delà du cuir aujourd'hui, on observe, vous parlez de l'époque, que cette chanson est de 1966, c'est-à-dire qu'il y a tout juste 2 ans que le général de Gaulle, président de la République, a décidé de reconnaître la Chine, annonçant un mouvement que rejoindront la plupart des puissances occidentales ensuite.
Donc le général de Gaulle était en quelque sorte avant-gardiste par rapport à ses collègues. En revanche, on voit que les stéréotypes restent forts et que malgré les changements politiques, l'image de la Chine peine à évoluer depuis la fin du 19e siècle avec la naissance de l'idée de péril jaune. Et on voit qu'en 66, elle est toujours très forte et aujourd'hui encore. Et
nous allons parcourir cette très longue durée de l'évolution d'un regard de l'Occident et en particulier de la France sur la Chine. Peut-être faut-il remonter au 17e et au 18e siècle. Les jésuites ont joué un rôle essentiel. Je voudrais donner la parole à ce propos à René Étiamble, qui est un professeur à la Sorbonne. Vous savez, c'est lui qui a beaucoup lutté contre le franglais. Je pense qu'actuellement, il serait parfois un peu malheureux. Mais qui, d'autre part, s'est beaucoup intéressé à la présence des jésuites en Chine, où ils ont été depuis 1582 jusqu'à 1773. Écoutons-le donc.
Lorsque l'Europe, par exemple, s'imagine que l'Asie s'oppose à elle comme la technique à la pensée spirituelle, la technique étant représentée par l'Europe et la spiritualité par l'Asie, quand l'Europe s'imagine ça, l'Europe ignore le fait fondamental de la civilisation au XVIIe siècle, à savoir les missions jésuitiques en Chine. Lorsqu'après l'échec des premières missions chrétiennes, saint François Xavier a eu l'idée d'essayer de reconquérir la Chine à la chrétienté, il a très vite compris et son ordre avec lui, que ce n'était pas par la spiritualité qu'on allait conquérir ce peuple positif. Ce peuple chinois leur avait paru aux jésuites, qui étaient fort intelligents, extraordinairement positivistes, positifs, près de la terre, à ras du sol. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les jésuites, pour conquérir la Chine? Parler de Dieu? Non, pas du tout. Ils ont d'abord traduit la géométrie d'Euclide. Mais ils l'ont traduite en y mettant le monogramme du Christ, comme si c'était le Christ qui était l'inventeur de la géométrie d'Euclide. Et après ça, ils pouvaient dire aux Chinois, vous voyez que notre religion, c'est quelque chose d'intéressant. Là, la géométrie, là, ça ne ment pas, c'est la vérité. Donc, le Christ, c'est la vérité. Donc, maintenant, écoutez-nous quand nous vous parlons du bon Dieu. N'est-ce pas ? Voilà comment les jésuites ont essayé d'avoir les Chinois. Ça prouve que les Chinois n'étaient pas des spirituels, Dieu merci, mais des hommes pour qui la géométrie importait beaucoup. D'autre part, ils sont aperçus que les Chinois avaient de mauvais calendriers, parce que c'était les Arabes qui leur avaient fait. Ou bien des astronomes chinois, qui n'étaient pas mauvais, car il y a une grande astronomie chinoise. Il y a des notations d'éclipses fort anciennes en Chine. Mais les Chinois n'avaient pas tous les instruments qu'avait produit la technique occidentale, d'une part, et ils n'avaient pas eu un homme comme Galilée, disons. Eh bien, les jésuites écrivaient à Galilée pour lui dire « Cher ami, calculez-nous exactement telle éclipse qui est pour bientôt. » Puis après ça, ils allaient trouver les Chinois en disant « Je vais vous dire exactement quand l'éclipse va se produire. » Et alors, à ce moment-là, les astronomes arabes disaient « C'est pas vrai, voilà l'heure à laquelle l'éclipse va se produire. » Les astronomes chinois disaient « C'est pas vrai, les Arabes ont tort, c'est nous qui allons bien calculer l'éclipse. » Et naturellement, c'était toujours Galilée qui avait raison. À ce moment-là, l'empereur de Chine disait « Mais décidément, ces jésuites, ils connaissent très bien l'astronomie. » Et du coup, on leur a livré le bureau capital de la mathématique. Les jésuites ont été, en Chine, les chefs du bureau de la mathématique. Quand les Français comprendront ça, ils sauront ce que c'est que les rapports entre l'Europe et la Chine. Quand ils ne comprendront pas ça, ils ne comprendront rien à la Chine. Pour avoir eu une chance d'investir la Chine, les jésuites ont d'abord fait de la géométrie, puis de l'astronomie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas converti les Chinois au christianisme.
Cet entretien avec René Etiamble est tiré de l'émission « Conjoncture Orient-Occident » de Louis Dandrel. C'était sur France Culture, bien sûr, le 27 novembre 1971. Alors, François Pavé, cette analyse vous paraît pertinente, l'idée que l'adaptation du dogme chrétien nécessitait une bonne connaissance de la culture et de la langue chinoise?
L'ouvrage de René Etiamble, L'Europe chinoise, a pour titre dans son tome 2 de la sinophilie à la sinophobie, et c'est vrai que René Etiamble explique tout le cheminement en fait des jésuites pour tenter de convertir les Chinois au christianisme, et il explique clairement que c'est par la voie de l'expertise scientifique que les jésuites avaient l'idée de convertir les élites chinoises.
Avec un succès fort limité, à vrai dire.
Avec un succès limité, puisqu'à terme, ils n'ont pas réussi à convertir les Chinois, mais ils ont réussi à approcher l'empereur de Chine, à être reconnus à la cour de Chine. Et vraiment, l'idée, c'était qu'en convertissant les élites, on pourrait peut-être après convertir le peuple, et non convertir d'abord le peuple, puis les élites. Ce qui est intéressant, c'est que surtout les jésuites ont fait connaître la Chine en Europe, puisqu'ils ont été accueillis à la cour de Chine, et ensuite, ils ont beaucoup écrit sur la Chine. Et en fait, si on connaît la Chine de cette époque-là, c'est grâce aux jésuites en grande partie.
D'où un véritable engouement, par exemple, à Versailles. C'est l'époque où on apprend à aimer la porcelaine chinoise. On raffole du thé, on raffole des lacs, on raffole des soieries.
Donc il y a un véritable engouement, et aussi en 1685, par exemple, Louis XIV envoie 5 scientifiques jésuites vers l'Empire de Chine, qu'on appelle les mathématiciens du roi, et ces 5 mathématiciens, donc experts scientifiques, approcheront l'empereur de Chine, l'empereur Kangxi, et à leur retour permettront à nouveau une réelle connaissance de la Chine.
Il n'y a pas à l'époque d'aucune façon l'idée d'un péril jaune et pointe encore non plus au XVIIIe siècle, où commence de se mêler la sinophilie et la sinophobie, pour reprendre les deux formulations d'Etiamble.
À la fin du XVIIIe siècle, il y a encore une véritable sinophilie, et Louis XIV est très attiré par la Chine. L'empereur Kangxi aussi est assez curieux de la situation qui peut exister en France. Donc les 5 mathématiciens du roi partiront avec des cadeaux pour l'empereur Kangxi, en particulier de l'horlogerie. Et en retour, Kangxi, donc l'empereur de Chine, fera un des tout premiers présents faits à un dirigeant occidental, en offrant un territoire à Pékin sur lequel sera édifié la cathédrale de Pékin, la cathédrale de Peitang, qui sera la première cathédrale à Pékin.
Chacun se sent grandi, si c'est possible, par ce dialogue avec l'autre.
Oui, Et les Français sont très fiers à l'époque d'être les seuls à envoyer de réels ambassadeurs vers l'Empire de Chine, ambassadeurs qui seront reconnus.
Les philosophes des Lumières, en général, sont également sinophiles, sauf Montesquieu, qui se méfie. Mais Voltaire, par exemple, il a cette pièce fameuse, L'orpheline de la Chine. Voltaire aime beaucoup ce pays lointain.
Alors, Voltaire aime beaucoup ce pays lointain. Et là, on ne doit pas oublier que l'éducation de Voltaire a été principalement faite par les jésuites. Et donc, forcément, il a une image très positive de la Chine, alors que Montesquieu a plutôt l'image d'un pays despotique.
Alors, ce qu'il faut maintenant expliquer, c'est comment on est passé à cette méfiance qui va parfois devenir une angoisse au long du 19e siècle envers la Chine et à certains égards aussi à l'égard du Japon. Cette évolution s'explique notamment par la manière dont les puissances occidentales et la Chine, vues désormais comme déclinantes, ont organisé leurs relations de façon très souvent guerrière.
Là, je vais reprendre René Etiamble, puisque dans l'Europe chinoise, il évoque le rôle très important de l'ouvrage de George Hanson, qui a écrit en 1748 Le Voyage autour du monde. Un anglais, oui, puisque entre 1740 et 1744, il a effectué un long voyage autour du monde avec une escale importante à Canton.
À chaque moment, il y a comme ça des livres importants qui émergent, qui contribuent beaucoup à forger les sensibilités.
Oui, parce que ce livre va être très lu, en fait, et l'image que développe Hanson dans cet ouvrage est très différente de l'image positive qu'on avait jusqu'alors de la Chine. Il se montre très critique vis-à-vis de l'Empire de Chine. Il constate tout d'abord qu'il est mal accueilli à Canton et il en est très étonné parce que, au regard de la grandeur de la civilisation anglaise, il est très surpris qu'un accueil meilleur ne lui soit pas réservé. Il n'arrive pas à rencontrer les autorités cantonaises les plus élevées, donc il en est très déçu. Il est aussi étonné par l'aspect brouillon des Chinois. Il y voit aussi une sorte de civilisation du paraître avec des soldats qui semblent puissants mais qui sont finalement équipés d'un matériel qui lui paraît très rudimentaire.
L'armure serait tout simplement du papier brillant.
Voilà, de l'armure de papier brillant. On retrouve un peu ce qu'on entendait tout à l'heure dans la chanson de Trenet avec les semelles de papier. Voilà, ce serait un monde de papier prêt à s'enflammer rapidement et à disparaître presque. Donc cet ouvrage, Le Voyage autour du monde, va être très lu et va, selon René Etiamble, le grand spécialiste de l'époque, entraîner une modification de la façon de percevoir la Chine.
Et ce regard va se dégrader à mesure que le temps va passer, et notamment au XIXe siècle. Il faut comprendre ça.
Oui, donc le regard va complètement s'inverser. Aussi parce qu'au XIXe siècle, l'homme blanc acquiert peu à peu l'idée qu'il est supérieur aux autres hommes. La colonisation est débutante, donc on a une sorte de mondialisation naissante. Et dans ce contexte de mondialisation naissante, les Chinois apparaissent comme un peuple faible et affaibli, surtout au moment de la guerre de l'opium.
C'est le temps où Gobineau, le diplomate, l'ancien collaborateur de Tocqueville, publie son fameux essai sur l'inégalité des races humaines, 1853-56.
Oui, donc là il développe vraiment l'idée que le Chinois est un être inférieur. Et que les Occidentaux, que la race européenne en quelque sorte, est bien supérieure aux autres.
Là, c'est un tournant essentiel avec les guerres, les deux guerres de l'opium en particulier, dont nous devons rappeler l'émergence et les conséquences.
Donc la première guerre de l'opium commence en 1838. Elle est caractérisée par le fait que jusque-là, l'Empire de Chine est très replié sur lui-même. Et ce repli devient insupportable en fait pour les puissances occidentales, en particulier pour l'Angleterre qui souffre d'un réel déficit commercial avec la Chine, avec une forte importation de thé vers l'Empire anglais, alors que les Anglais n'ont rien à exporter au départ vers la Chine. L'idée va être alors d'exporter vers la Chine de l'opium produit dans l'Empire des Indes vers l'Empire du Milieu. Et c'est en réaction à cette nouvelle forme d'échange que les Chinois vont réagir. Et donc interdire l'importation d'opium anglais, finalement, dans l'Empire de Chine. Et c'est cette situation nouvelle que les Anglais vont refuser.
Avec des moments dramatiques, notamment au cours de la Seconde Guerre, et en particulier le sac du palais d'été à Pékin, qui est un oui. Acte en vérité profondément barbare.
Un acte barbare alors que les Occidentaux sont persuadés à l'époque d'être porteurs des valeurs de la civilisation et ils vont s'illustrer par des actes inacceptables au niveau du palais d'été Victor Hugo prendra la défense de la culture chinoise à ce moment-là et soulignera le caractère profondément violent, barbare et contraire à la civilisation des agissements des Anglais et des Français.
Oui, il faut toujours écouter et lire Victor Hugo. On a toujours profit à retourner à lui. Et dans une lettre d'exil, en novembre 1861, il écrit à un correspondant qu'il a interrogé sur son point de vue quant à l'expédition de Chine. Il lui dit... À propos du palais d'été, c'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin, dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. Il y a l'anglais et le français. La victoire peut être une voleuse, à ce qu'il paraît. Une dévastation en grand du palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mêler à tout cela le nom d'Elgin, qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. C'est lui qui avait pris les frises du Parthénon que la Grèce réclame toujours aujourd'hui au Royaume-Uni. Ce qu'on avait fait au Parthénon, on l'a fait au palais d'été. Plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n'égaleraient pas ce splendide et formidable musée de l'Orient. Il n'y avait pas seulement là des chefs-d'œuvre d'art, il y avait un entassement d'orfèvrerie. Grand exploit, bonne aubaine. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu, en Europe, bras dessus, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits.
Moi, ce qui m'a intéressé dans le texte de Victor Hugo, c'est que, en particulier, il y évoque une confrontation de civilisations, mais il y a très peu de place, finalement, pour les hommes. Ça s'inscrit dans les réflexions de l'époque. Mais on aurait aimé un petit mot aussi pour les Chinois massacrés, parce que les civilisations sont rien sans les hommes.
Alors, on peut dater la naissance officielle de l'expression du péril jaune, et vous le faites dans votre livre. Racontez-nous ça.
Alors très clairement, l'expression « péril jaune » apparaît en France en 1895. C'est suite à la publication dans une revue qui s'appelle à l'époque « Le Monde illustré » d'une allégorie représentant l'agression par des hordes barbares venues d'Extrême-Orient des puissances occidentales. Cette allégorie a été commandée par l'empereur d'Allemagne Guillaume II. Et c'est vraiment la date de naissance de l'expression « péril jaune », traduction de Die gelbe Gefahr, qui donnera en français le péril jaune.
Il s'agit d'un peintre renommé, Hermann Knackfuss, qui a dessiné cette allégorie, effectivement, où on voit l'archange Michel dominant une réunion des puissances occidentales et regardant au loin un Bouddha entouré d'une horde sauvage.
L'image est très intéressante puisqu'on voit sur un nuage, un Bouddha assis et descendant des nuages des hordes de soldats venus d'Extrême-Orient, donc à droite sur l'image, qui semblent venir et traverser peut-être un fleuve qui pourrait être le Rhin et menacer à la fois une église et les puissances occidentales, les puissances européennes.
D'ailleurs, l'empereur Guillaume II, le Kaiser, est explicite dans une lettre qu'il envoie à son cousin, le tsar de toutes les Russies. Il lui dit « Avec un artiste qui est un dessinateur de premier ordre, j'ai ébauché ce croquis et l'ayant terminé, je l'ai fait graver afin de le rendre accessible à tous. Le dessin représente les États européens sous l'aspect de génie que l'archange Michel, envoyé par le ciel, invite à s'unir au nom de la défense de la croix. » Il y a un côté croisade qui est très clair, mais cette fois c'est pas contre l'islam, c'est contre les jaunes. Au nom de la défense de la croix pour résister à l'envahissement du bouddhisme, du paganisme et de la barbarie. Cette unité est nécessaire aussi contre les ennemis intérieurs qui nous menacent, anarchie, républicanisme, nihilisme.
À l'époque, les Français ont la responsabilité, la charge de protéger les catholiques situés en Extrême-Orient. Il n'y a pas de représentant de la papauté à Pékin à cette époque-là, en 1895. Et Guillaume II aimerait bien obtenir cette responsabilité, aimerait bien obtenir le droit et en quelque sorte l'obligation de protéger les catholiques d'Extrême-Orient. Et donc, alors que la France s'engage dans l'anticléricalisme et où il ressent déjà une lutte contre l'Église, il aimerait obtenir le droit de protéger, en fait, en quelque sorte, les catholiques d'Extrême-Orient, les catholiques de Chine.
Alors, il y a un moment, François Pavé, qui est très important, c'est le moment de la guerre des boxers, les 55 jours de Pékin qui vont voir les ambassades, les légations des pays occidentaux à Pékin être assiégées par des hordes, le vocabulaire de l'époque, oui. Des hordes de boxers, de révoltés, déchaînés. Écoutez cet extrait du film que Nicolas Ray en a tiré en 1963, Les 55 jours de Pékin. C'est un dialogue entre l'impératrice Cui, il paraît qu'aujourd'hui il faut dire Cixi, je ne sais pas
quoi.
Cixi. Cixi, c'est très bien. Et d'un représentant des puissances occidentales.
Vous allez bien, Sir Arthur ?
Je vais bien si Votre Majesté va bien.
Je suis heureuse de vous recevoir.
Votre Majesté me fait beaucoup d'honneur.
Nous avons été informés de la fin malheureuse du ministre d'Allemagne. Les bandits boxers seront punis. Mais la colère du peuple chinois ne pourra pas se calmer si facilement. Les Allemands se sont emparés de Kaohsiung. Les Russes se sont emparés de Port Arthur. Les Français ont obtenu des concessions dans le Yunnan, le Guangxi et le Guangdong. En tout, 13 des 18 provinces de la Chine sont sous la domination étrangère. Des bateaux de guerre étrangers occupent nos ports, des armées étrangères occupent nos forts, des financiers étrangers administrent nos banques. Des dieux étrangers troublent la paix des esprits de nos ancêtres. Est-il surprenant que notre peuple se soulève ?
Votre Majesté me permettra de remarquer que les violences des boxers ne répareront pas les torts subis par la Chine.
La Chine est une vache épuisée. Les puissances ne se contentent plus de la traire, elles la dépècent et se partagent sa viande.
Si la Chine est une vache, Majesté, ce doit être un merveilleux animal, qui donne aussi bien son lait que sa viande, mais qui en même temps gagne des forces. La Chine apprend de l'Occident des arts pacifiques nouveaux. Mais sa plus précieuse vertu, c'est sa patience. Et si elle veut l'exercer maintenant, elle obtiendra tous les succès.
Et autrement ?
Autrement. Si les conseils d'impatience et de violence l'emportent, le sang de millions d'hommes sera répandu. Et les souffrances se prolongeront.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'est Flora Robson dans le film de Nicolas Ray, Les 55 jours de Pékin, qui interprétait l'impératrice douairière Cui, en français Germaine Kerjean, et c'est David Niven qui jouait l'ambassadeur britannique, Sir Arthur Robertson, la voix de Bernard Dérand en français. Et c'est une manière, je crois, François Pavé, de faire ressurgir un débat qui s'est développé à l'intérieur même du camp chinois.
Donc la guerre des boxers va être un moment très important en fait dans l'histoire des relations entre l'Occident et la Chine. En particulier pour l'Occident, c'est le moment où il va y avoir une prise de conscience du danger de s'implanter en Chine. La Chine n'est pas un pays comme les autres. C'est pas un pays où on va pouvoir avoir une colonisation de peuplement tellement la Chine est peuplée. Et s'installer en Chine, c'est toujours s'exposer au risque de jacquerie généralisée en quelque sorte, qui peuvent mettre en danger la vie des expatriés en Chine. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur cette période, c'est que j'ai l'impression que l'inquiétude et que les faits ont été exagérés par les expatriés vivants alors à Pékin pour s'assurer de la venue d'une armée colossale, une armée qui réunissait à l'époque 8 puissances occidentales, donc à la fois les grandes puissances européennes, le Japon et les États-Unis.
C'est un cas unique, en vérité,
de rencontre entre ces armées. Au moment de la guerre du Golfe, en quelque sorte, hein, on a une coalition internationale qui est là pour mater le soulèvement du peuple chinois qui n'en peut plus de la présence, finalement, occidentale. Mais je pense qu'à l'époque, il y a une vaste désinformation voulu par les expatriés pour exagérer la menace chinoise. Et cette exagération aura des conséquences puisque c'est à partir de là où l'idée de péril jaune va à nouveau se développer avec la parution, par exemple, en 1901 du livre d'Edmond Terry, directeur à l'époque de L'Économiste européen, donc une personne plutôt conservatrice sur le plan économique et politique. Et cette personne va connaître un vrai succès avec son livre qui s'appelle Le péril jaune, publié en 1901.
Et en même temps, cet épisode très, très impressionnant et tout de même dramatique, puisque l'ambassadeur d'Allemagne a été assassiné, va servir de terreau pour l'émergence de toute une littérature populaire. Et évoquer l'idée de péril jaune à ce tournant du 19e et du 20e siècle appelle évidemment un regard sur ce qui a été largement diffusé, je pense, à plusieurs ouvrages importants. Il y a eu... Par exemple, cette histoire qui s'appelait « Cigale en Chine » de Paul Divoy, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque et qui évoquait un jeune lieutenant français tombant amoureux d'une princesse, Roseau Fleury, et qui la conduisait d'épisode en épisode, découvrant, je parle de la princesse, toutes les merveilles de la civilisation occidentale.
On va retrouver aussi la littérature de Pierre Loti à l'époque, avec justement une littérature à laquelle on a reproché de donner une image un peu idyllique du Japon en particulier. On va reprocher dans les années 1905, au moment de la guerre sino-japonaise, on va reprocher à Pierre Loti d'avoir un peu endormi l'opinion publique occidentale et française en particulier, en donnant l'idée d'un Japon poétique et qui aime les délices de la vie.
Alors ça, c'est le côté japonais, mais le côté chinois ?
Sur le côté chinois, va paraître en 1900 déjà, dans Le Monde illustré, un numéro spécial qui s'appelle « La Chine et l'Europe en l'an 2000 ». Donc c'est une histoire écrite par Henri de Noussan durant l'été 1900, c'est-à-dire à l'époque de la guerre des Boxers. Et il imagine la situation de Pékin en l'an 2000, avec au 1er janvier 2000, des Occidentaux qui sont priés de quitter Pékin, qui est devenue une très grande ville, et la puissance des Chinois leur permet de ne plus avoir besoin des Occidentaux. Les Chinois, à l'époque, selon Henri de Noussan, quand il imagine la Chine de l'an 2000, sont d'ailleurs dirigés par des Japonais. Une dynastie japonaise s'est installée à la tête du peuple de Chine et gouverne à Pékin.
Peu après, ont un grand succès en France aussi les ouvrages du colonel Drian, qui signe d'Henri. C'est le gendre de Boulanger, qui va d'ailleurs trouver une mort glorieuse en 1914-18, et qui publie des livres notamment intitulés « L'invasion jaune » 1908. C'est ici le récit d'événements tout à fait impressionnants.
Oui, alors il imagine là un déferlement de l'armée chinoise, à nouveau dirigée par des Japonais, vers l'Europe, jusqu'à Paris, où même le palais Bourbon sera envahi par des Japonais qui riront du parlementarisme français et de la faiblesse des démocraties françaises. En fait, dans la critique d'Henri, on retrouve toute la critique du parlementarisme et de la démocratie. Il serait favorable à un pouvoir plus autoritaire, lui aussi, d'Henri aussi. Et l'idée, c'est de montrer que les puissances occidentales, finalement, avec leur démocratie, sont faibles par rapport aux intentions de la Chine qui, peu à peu, se réveillera.
Cette ambiance est aussi marquée par la première grande défaite d'un peuple dit blanc en face d'un peuple dit jaune, pour reprendre les formulations de l'époque. De mon temps encore, dans nos manuels de géographie, on voyait les quatre races, race blanche, race jaune, race noire et race rouge, les peaux rouges d'Amérique. Il s'agit de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, avec ce moment paroxystique de la défaite navale à Tsushima, de la marine impériale, tsariste, contre la marine japonaise.
Donc cette guerre va considérablement marquer les opinions publiques occidentales, puisque effectivement, comme vous venez de le dire, c'est la première défaite d'un peuple blanc face à un peuple jaune. Ça inquiète particulièrement en France, puisque à l'époque, la Russie est très proche de la France. Les Français ont des emprunts russes, donc il y a une véritable inquiétude sur l'affaiblissement durable possible de la Russie.
On voit d'ailleurs des intellectuels français, le mot est tout neuf, des écrivains et des intellectuels protestaient à cette occasion contre le développement des emprunts russes qui viennent donner à l'empire du tsar la possibilité de s'en prendre aux Japonais. Et encore une fois, c'est une manière de marquer que l'angoisse du péril jaune n'est pas universelle parmi la population française ou occidentale.
Effectivement, alors il y a cette crainte qu'on a le sentiment qu'en alimentant le trésor, en quelque sorte, russe, on permet aux Russes de lutter contre les Asiatiques.
Anatole France est très clair dans ça,
oui,
cet égard.
Oui, il est très clair. Certains vont inverser la réflexion en observant que, finalement, les Japonais sont plus occidentaux que les Russes. C'est-à-dire que les Russes sont finalement moins bien équipés et sont peu modernes, alors que le succès des Japonais, ils le doivent à leur technique militaire occidentale acquise auprès des Anglais et des Américains et de certains Français, et aussi à leur équipement militaire qui ressemble à l'équipement occidental. Donc finalement, certains vont inverser la réflexion en disant que c'est pas vraiment une défaite d'un peuple blanc contre un peuple jaune, mais au contraire la victoire de l'équipement, de la technique occidentale contre un peuple russe qui serait resté, lui, un peu moyenâgeux.
On trouve dans le même temps des propos de Jean Jaurès qui sont également intéressants à considérer. Il montre le risque que la Chine fasse subir un échec aux Européens maladroits, avides et désunis. C'est donc une autocritique. Et il dit que ce serait bien redoutable que le Japon, la Chine et l'Inde puissent constituer un trépied formidable portant la menace de l'Asie réveillée. Déjà, l'Asie réveillée, grand problème pour l'Europe et peut-être grave péril.
En fait, il y a à l'époque une véritable inquiétude d'un péril militaire et il apparaît en quelque sorte fondé puisqu'on voit que les Occidentaux ont du mal à s'imposer en Chine. Et certains pensent que, comme on l'a vu dans la littérature populaire, on peut aussi imaginer une invasion de l'Europe à terme par des puissances chinoises et japonaises, puisque ce que font les Français ou les Occidentaux loin de leur pays, les Chinois un jour sont capables de le faire. Donc il y a cette crainte d'un vrai péril militaire.
Avant de quitter la littérature populaire, je voudrais évoquer le fameux Fu Manchu. C'est une série à grand succès qui est dû à Saxe Romer, ça s'écrit comme Eric Romer. C'est une nouvelle policière qui a eu un énorme écho dans tous les pays occidentaux. Cet extrait est lu par Rémi Kirsch et Alain Christie sur France Culture le 6 août 1985 dans une émission de Francis Lacassin, grand spécialiste de cette littérature populaire.
Fu Manchu existe donc vraiment ? Lui demanda-t-il d'un ton incrédule. Certainement. C'est à la fois le plus grand savant actuel et l'homme le plus dangereux du monde. Vous avez déjà entendu parler de lui, je suppose. Oui, mais je pensais... Vous pensiez que Fu Manchu était un mythe. D'autres ont commis cette erreur avant vous. Mais tout de même, un être d'apparence aussi inhabituelle, ici même, sachez, Alan, qu'il possède toutes sortes d'apparences. Il ne répond pas à l'idée qu'on se fait d'ordinaire d'un Chinois, et peut sans heurts passer pour un Européen. Il parle couramment plusieurs langues. Ses yeux, verts, obliques et brillants, sont ceux d'un Asiatique. Toutefois, lorsqu'il paraît en public, il porte des gants et des lunettes fumées. Pour avoir si souvent échappé à la prison et à la potence, il doit avoir beaucoup de complices. Nayland Smith sourit. Mais il souriait jaune. Il dispose d'une organisation internationale. Hommes, femmes, savants, politiciens. Toujours et partout, des yeux voient et observent pour lui.
Encore les stéréotypes, François Pavé.
Ces stéréotypes ont été solides, hein, puisqu'on retrouve en général l'image du méchant chez James Bond aussi. Là, on était en 1913, pas pour la lecture, mais pour l'écrit originel. Et donc, les stéréotypes vont durer, comme je le disais, dans James Bond, où l'asiatique est souvent le mauvais, et encore très récemment dans Pirates des Caraïbes, où le méchant est de façon très régulière un asiatique aussi.
C'est le cas aussi du fameux premier album des aventures de Blake et Mortimer, Le secret de l'Espadon, qui remonte à 1948. Ce ne sont pas les Chinois qui sont les méchants que combattent nos deux héros, mais c'est une sorte de race un peu hybride, mongole, on ne sait pas. En revanche, il faut signaler que Hergé a réagi contre l'hostilité à la Chine dans le Lotus Bleu.
Puisqu'il donne une image du Chinois à travers le personnage de Chang, de quelqu'un à l'amitié fidèle et sur lequel on peut vraiment compter.
Les méchants, ce sont les Japonais, Mitsui Hirato, oui. L'affreux Mitsui Hirato. Il faut dire que Hergé, au moment où il allait écrire son album, Le Lotus Bleu, a reçu une lettre d'un lecteur, il l'a raconté après, qui lui disait « Vous allez nous emmener avec Tintin et Milou en Chine, ne tombez pas dans les stéréotypes ». Et de fait, il y a tout un passage où Tintin dit « On nous raconte que », et ça n'est pas vrai, on nous raconte que les femmes ont des pieds partout réduits par des bandelettes, etc., etc.
Hergé a essayé de lutter contre les stéréotypes, mais on peut voir qu'ils ont quand même la vie dure, puisque quelques années plus tard, quand on entendait la chanson de Charles Trenet, tous les stéréotypes sont encore là. Donc finalement, Hergé a tenté, mais n'a pas complètement réussi dans son désir de modifier l'image de la Chine en Occident.
Alors je voudrais maintenant que nous considérions les différents volets de cette hostilité au jaune, cette angoisse du péril jaune au tournant du 19e et du 20e siècle. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects démographiques, il y a des aspects politiques, et puis il y a même des aspects esthétiques. François Pavé. Commençons par l'économie. Alors, en liaison avec aujourd'hui, différences, ressemblances.
On retrouve des parallèles évidents avec aujourd'hui. En particulier, la crainte première à l'époque, c'est le faible coût de la main-d'œuvre qui permet aux Chinois de produire à bas coût. Et à terme, avec le développement et la qualité des transports, doit permettre, selon les penseurs, les économistes de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, de concurrencer de façon durable la France et l'Occident, et en particulier d'entraîner des grands problèmes sociaux, le chômage et le danger du socialisme, pour certains penseurs. Donc l'aspect économique, c'est quand même l'aspect du péril jaune qui est le plus évoqué à la fois dans les articles et dans les ouvrages rédigés à la charnière entre le 19e et le 20e siècle.
Avec cette étrange contradiction toujours entre une application à démontrer l'infériorité des Chinois tout en les considérant comme menaçants. C'est probablement un des traits centraux du racisme.
Voilà, c'est complètement paradoxal puisqu'on a peur de plus faibles en fait. Mais la crainte du péril jaune économique se développe vraiment au tournant des deux siècles, avec des ouvrages très précis écrits sur la question, des statistiques présentées. Et quand on décortique les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a des effets de pourcentage qui permettent d'inquiéter, où on va souligner le fait que le commerce extérieur japonais se développe de façon très importante, mais on ne doit pas oublier qu'avant l'ère Meiji, finalement, le Japon était replié sur lui-même. Donc forcément, il y a des effets impressionnants avec les pourcentages. Mais dans les faits, à l'époque, le Japon et la Chine ne constituent pas un danger économique pour l'Occident.
D'ailleurs, certains économistes plus lucides tiennent des propos qui nous sont encore aujourd'hui familiers, qui consistent à dire ces bas salaires qui vous inquiètent, à mesure que la prospérité de la Chine grandira, ces salaires vont augmenter et par conséquent, leur capacité de concurrence va s'affaiblir.
Voilà, il y a toute une polémique à l'époque d'économistes qui s'affrontent avec différents arguments. Et au bas salaire et au bas coût de production, on oppose à l'époque la productivité du travail et l'efficacité du travailleur occidental. Donc certains économistes voient bien qu'à l'époque, c'est juste un phénomène de transformation, de mondialisation de l'économie et qu'il n'y a pas réel danger puisque la qualité des produits occidentaux devra leur permettre de survivre à la concurrence des produits chinois, souvent de piètre qualité.
Il reste qu'on trouve dans toute cette littérature souvent des énumérations à la Prévert de tous les objets qui risquent de menacer nos usines et nos fabricants. Les marchés en Europe vont être envahis par le papier, les poteries, les chaussures, les courroies, les couvertures. C'est un texte de 1896. Les balances, les lampes, les bouchons, les cure-dents, les mouchoirs, la lingerie, les boutons de métal, les broderies, les cigarettes, la parfumerie, le savon, les plumes, le lait, le ciment. N'en jetez plus. Tout est menacé, dit cet auteur. Ce n'est pas tout. Voici venir le parapluie japonais. Ce n'est pas le parapluie de papier dont nous nous servons pour décorer nos appartements, c'est un parapluie imitant le parapluie européen, toujours cette idée qui va être si prégnante de l'imitation redoutable à moindre coût, imitant le parapluie européen que les Japonais sont arrivés à fabriquer dans les mêmes conditions que les pendules et les allumettes. Ils en vendent plus de 2 millions par an aux Chinois, aux Russes et aux Américains. Les plus ordinaires ne valent pas plus d'un franc. Fin de citation.
C'est déjà l'idée de la contrefaçon en quelque sorte. Les Asiatiques vont produire des produits qui ressemblent aux produits occidentaux, mais avec une qualité nettement moindre. Ce qui est intéressant, c'est que la peur du péril économique, elle se développe pour l'essentiel en France. C'est-à-dire que quand vous parlez du péril jaune aujourd'hui, l'expression n'est pas du tout populaire en Angleterre, en Allemagne ou dans différents pays.
Et donc, pourtant, vous me disiez que c'était Guillaume II qui avait lancé l'idée.
Oui, mais son idée, elle aura un réel succès finalement en France parce que la France va avoir du mal à s'emparer des marchés finalement extrêmement orientaux, va avoir du mal à pénétrer le marché chinois, le marché japonais, et elle va observer que les observateurs français vont constater que les Français n'arrivent pas à s'imposer sur ces nouveaux marchés.
Oui, il se mêle toujours à cette inquiétude, celle qui naît d'une concurrence avec d'autres puissances européennes qui nous seraient éventuellement défavorables.
Voilà, les Français apparaissent comme n'étant pas à la hauteur, et c'est pour ça que l'expression péril jaune aura un tel succès. À tel point que un homme politique, par exemple, comme Paul Destournelle de Constant...
Ah, il vous est cher, celui-là, n'est-ce
Paul
pas
Paul Destournelle de Constant m'est cher parce qu'il est sartois, comme moi, et donc il a été député puis sénateur français entre 1895 et 1924. C'était un diplomate donc qui a décidé de devenir un homme politique pour avoir une liberté de parole et de ne pas être tenu par le devoir de réserve. Et il va se passionner pour la question du péril jaune. Et en particulier, il va s'intéresser à cette dimension économique du péril jaune.
Il y a d'énormes dossiers que vous avez retrouvés.
Voilà, donc aux archives départementales de la Sarthe, il y a un énorme dossier, il y a 9 cartons complets d'articles recueillis sur cette question, et ça a constitué en fait la base première de ma thèse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, il utilise un organisme qui s'appelle l'Argus de la presse, qui lui permet de recueillir l'ensemble des textes écrits sur le sujet.
Un second volet de l'inquiétude taraudante devant un péril jaune en ce début du XXe siècle est marqué par la préoccupation démographique. Oui. L'idée de l'invasion des masses. À l'époque, on parle de l'âge des masses, des grandes foules, etc. Cela se retrouve très clairement dans beaucoup d'écrits de l'époque. Ils vont nous submerger, avec souvent d'ailleurs un écho qui renvoie à l'époque de l'arrivée des barbares à la fin de l'Empire romain.
Il y a donc cette idée de submersion qui s'observe déjà, selon les Européens, sur la côte ouest américaine, où on constate que les Chinois viennent en grand nombre, concurrencent dans de nombreux domaines économiques le travailleur blanc.
Et les Japonais aussi.
Et les Japonais aussi. Et en particulier, le Chinois et le Japonais a l'avantage de venir seuls, c'est-à-dire que les hommes viennent seuls, et ils constituent de ce fait une concurrence sur le plan de la main-d'œuvre inconcurrençable, en quelque sorte.
Il y a d'ailleurs des sortes de pogroms qu'à certains moments, en Californie, contre les collectivités d'origine asiatique.
Il y a effectivement des soulèvements blancs contre la présence de Chinois et de Japonais.
À Vancouver, au Canada ?
À Vancouver, en 1907, il y a un grand soulèvement contre la présence des Japonais et des Chinois.
Nous ne sommes pas les seuls en France à être inquiets du péril jaune.
Nous ne sommes pas les seuls, puisque cette inquiétude va d'abord se développer sur la côte ouest et fera écho ensuite en Europe.
Ce qui frappe en ce qui concerne ce volet de l'angoisse démographique, c'est que beaucoup d'écrivains se laissent aller volontiers à des comparaisons qui sont zoologiques en particulier. Je vois que le consul de France à Singapour a écrit en 1897 « Aujourd'hui, les Chinois pullulent comme d'innombrables bestioles nuisibles ». Il y a des comparaisons avec les lapins dans des cages, des comparaisons avec des rats, des cancrelats, des insectes.
Il y a des comparaisons avec des termites, la fourmilière. On parle aussi de la ruche que peut constituer la Chine, de laquelle il ne faut pas s'approcher puisqu'on risque finalement d'être piqué. Donc il y a effectivement beaucoup de comparaisons comme ça zoologiques qui se développent à l'époque.
Et puis il y a aussi la préoccupation, c'est moins évident, la préoccupation esthétique, puisqu'un certain nombre d'artistes en Occident, et notamment en France, se rebellent contre l'arrivée de l'art japonais et de l'art chinois, contre la mode qui se développe à ce moment-là. On ne sait pas toujours, par exemple, qu'à la fin du XIXe siècle, l'institution du musée Guimet, qui est aujourd'hui une de nos gloires, un de nos joyaux muséographiques à Paris, a suscité beaucoup, beaucoup d'opposition.
Voilà, donc l'ouverture du musée Guimet va en fait engendrer de réelles inquiétudes. On y voit effectivement la pénétration sournoise de la culture extrême-orientale à Paris. Clémenceau s'y rendra, par exemple.
Mais s'y rendra pour approuver, parce que Clémenceau, on a d'ailleurs au musée Guimet fait récemment une très très belle exposition sur Clémenceau et l'Extrême-Orient. Et lui se pose évidemment avec énergie, avec détermination, avec enthousiasme contre ces définitions du péril jaune. Après tout, c'est lui aussi qui, comme on le sait, s'était opposé à Jules Ferry quand celui-ci parlait des classes supérieures et des classes inférieures à propos de la colonisation. Il disait classes inférieures. J'aimerais bien voir ça en Chine. Ils étaient au sommet d'une civilisation au moment où nous autres, au moment du Moyen-Âge, nous étions encore à quatre pattes devant les moines.
Voilà, donc Clémenceau va inviter en fait les Français à réviser leur regard sur les Chinois. Il se dira même, je crois qu'il répondra avec humour à un journaliste, il se dit bouddhiste à un moment en sortant du musée Guimet.
Oui, il avait été assisté à une cérémonie bouddhiste. Et moi, je suis bouddhiste. Oui. Ah bon, dit le journaliste stupéfait, qui voyait en lui un clérical acharné.
Avec l'idée un peu de provoquer finalement l'opinion publique à travers une telle expression.
Alors, en dépit de la permanence dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, dans les années 30 et après la libération, d'un certain nombre d'inquiétudes ou d'idées reçues, de stéréotypes qui continuent de cheminer en profondeur. En dépit de cela, le péril jaune apparaît comme moins prégnant. Et puis, l'inquiétude va renaître à partir des années 70-80. Il y a un tournant important qui est marqué par le livre, qui est un grand succès d'Alain Perfit.
Oui, Perfit écrit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et dans son ouvrage, il explique pourquoi la Chine peut à terme constituer un danger, en particulier sur le plan économique, pour le reste du monde.
Et de ce point de vue-là, le succès, c'est un best-seller. Oui. Le succès de son livre témoigne d'un tournant dans les sensibilités collectives, me semble-t-il. Écoutons Alain Perfit dans « Radioscopie » de Jacques Chancel, sur France Inter, le 11 juillet 1973.
Je trouve que la phrase de Napoléon, attribuée à Napoléon, est absolument prophétique. Napoléon se disait, c'est l'inconnu de demain, c'est un immense pays, le jour où ce pays prendra conscience de lui-même et se réveillera de son sommeil séculaire, eh bien le monde tremblera parce que son éveil changera toutes les données de la vie internationale. Et je crois que le moment est arrivé. Et il est même tellement arrivé que, si tout le monde ne tremble pas, si le monde entier n'est pas pris de tremblement, en tout cas, on peut être sûr que les deux super grands sont pris de tremblement, la Russie d'une part, les États-Unis de l'autre. Et la Russie, qui n'a pas de relation pratiquement avec la Chine, qui est en état de rupture avec elle depuis 1960, et les États-Unis, qui n'ont pas eu de relation avec elle entre 1949, date de ce que les Chinois appellent la libération, jusqu'à 1972, date où Nixon est arrivé en Chine, un peu comme on arrive à Canossa, c'est en tout cas ainsi que les Chinois l'ont ressenti. Donc, le monde a tremblé. Pendant de longues années, le monde n'a pas voulu reconnaître la réalité de cette Chine nouvelle et a fait tout ce qu'il a pu pour s'y opposer. Et quand le général de Gaulle, en 1963, a pris la décision de reconnaître la Chine nouvelle et que en janvier 64 il a annoncé cette décision, ça a fait scandale.
Alors dans l'évolution, François Pavé, de cette présence du péril jaune dont nous parlons ce matin, comment expliquer qu'il ait reculé en quelque sorte dans les réactions, dans l'opinion publique en général, jusque vers ces années 70, et qu'il y ait vraiment eu un changement, un tournant que marque en particulier ce succès d'Alain Perfit?
En fait, la question du péril jaune va vraiment être très vivante, je dirais, des années 1900 à 1905. Après, il y a la guerre russo-japonaise qui va considérablement inquiéter. Et puis après, ce sont la montée du danger avec l'Allemagne qui va éclipser peu à peu la question extrême-orientale. Et cette question va passer sur un second plan. Ensuite, vont venir les conséquences de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, la question chinoise, japonaise, disparaît peu à peu, même si il y a forcément le développement du danger japonais qui apparaît en Extrême-Orient avec toutes les conquêtes réalisées par le Japon allié de l'Allemagne. Après la guerre, c'est la même chose. La question chinoise est un peu éclipsée. On s'inquiète quand même du maoïsme. Mais finalement, sur le plan économique, la Chine est affaiblie et elle n'apparaît pas comme un danger à l'extérieur. Et c'est au moment des années 70 où peu à peu la Chine commence à rebondir, même si c'est plutôt dans les années 80-90 que le développement de la Chine devient réel, que le péril jaune va réapparaître sur le devant de la scène.
Mais c'est dès 1966 que la fameuse chanson de Jacques Dutronc sur les 700 millions de Chinois a le succès que nous nous rappelons. Et c'est en 1974 que Jean Yann a mis en scène les Chinois à Paris, où il imagine que les Chinois se mettent à envahir la capitale à peu près comme les Allemands en 1940, ce qui a suscité d'ailleurs des protestations énergiques de l'ambassade de Chine à Paris.
Mais la chanson de Dutronc avec ses 700 millions de Chinois, elle évoque bien la question du nombre. Et on évoquait tout à l'heure les termites, les fourmis, les abeilles. Et cette question du nombre, c'est celle qu'on observe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ouverture de la Chine, le développement de la Chine, n'est pas comme le développement des autres pays. On est là sur un pays aux dimensions extraordinaires, avec 1,3 milliard d'habitants. On le voit bien, par exemple, au début du mois, vous avez sans doute su qu'un patron chinois avait offert un voyage à peu près 6000 employés.
À Nice.
À Nice, quoi, Paris puis Nice. Il avait pour cela affrété 80 vols commerciaux. Donc on voit bien qu'on est toujours dans la démesure avec la Chine.
Ah oui, c'est apparu comme métaphorique à la télévision, c'était très impressionnant.
Voilà, donc le déferlement, finalement, c'est pas comme le déferlement qu'on imaginait au début du XXe siècle avec un déferlement de soldats, mais finalement un déferlement de touristes. C'est beaucoup moins inquiétant. Justement, on peut espérer une évolution positive de cette question où on s'aperçoit que finalement, le péril jaune n'existe pas et c'est simplement une mondialisation des échanges qui se développe. Mondialisation qui peut profiter à chacun finalement.
En même temps, j'observe que le numéro 464 de février de l'organe Fluide Glacial a présenté en une un français caricatural avec le titre « Péril jaune » et « Si c'était trop tard », un français caricatural avec son béret vissé sur la tête, cigarette au bec, qui conduit un Chinois et une jeune femme blonde dans un pousse-pousse. Là encore, les Chinois, y compris à Pékin, se sont indignés de cette parution, en exagérant peut-être d'ailleurs l'influence et le rayonnement de Fluide Glacial.
Voilà, ils se sont indignés, pensant peut-être que comme en Chine, on avait une presse officielle et qu'il s'agissait peut-être d'un organe officiel de la pensée française. Mais le succès de Fluide Glacial reste quand même limité. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce magazine montre quand même l'inquiétude des Français aujourd'hui. On parlait tout de suite des touristes et il y a quelque chose de sympathique dans cette venue de touristes. Pourtant, il y a quand même une peur diffuse de cette présence de Chinois avec la fermeture d'entreprises, avec la concurrence exacerbée des Chinois. On a vu le rachat d'une partie de l'aéroport de Toulouse il n'y a pas très longtemps par un Chinois.
Puis donc, à l'Afrique, l'idée aussi qu'ils vont nous supplanter en Afrique.
Voilà, on parle de plus en plus de Chine-Afrique. Une des réponses, je pense, c'est de faire le voyage en Chine et de voir aussi que, par exemple, une ville comme Shanghai se repéanise peu à peu. On voit les grandes marques françaises très présentes dans les grands centres commerciaux français. La société Carrefour, par exemple, est très très connue en Chine. Donc, ce péril, il est à double sens, finalement. Le péril économique, c'est juste une mondialisation qui s'exerce dans les deux sens.
Vous voulez dire qu'il y aura un péril blanc en Chine ?
Il y a quand même cette idée, donc cette idée elle était apparue déjà au moment de la guerre des boxers, mais il y a, je pense, les Chinois ont le sentiment d'un péril blanc à travers la présence de grandes marques occidentales sur leur territoire.
Eh bien, je ne suis pas mécontent, François Pavé, que vous clôturiez notre conversation sur le péril jaune en nous rassurant, supposé que nous ayons été très, très inquiets. Votre ouvrage s'appelle « Le péril jaune à la fin du XIXe siècle, fantasme ou réalité ?» C'est un ouvrage qui a été publié aux éditions de l'Harmattan en 2013. Je voudrais aussi signaler que vous avez édité le journal de Jules Bedeau, un artilleur français dans la guerre des boxers, aux éditions Youfeng, en 2007, Youfeng, ça c'est le péril jaune. Je citerai aussi l'article très dense de Régis Poulet, qu'on trouve en ligne, qui a été publié dans la revue des ressources le 6 juillet 2010, où il y a beaucoup à trouver sur le sujet que nous avons ensemble aujourd'hui, François Pavé, traité. Vous pourrez naturellement trouver une bibliographie plus complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, vous n'êtes pas insensible, j'imagine, François Pavé, au développement d'une certaine pipolisation dans les temps récents. Eh bien, nous parlerons, pour comparaison, de l'émergence de la célébrité au XVIIIe siècle, ses formes, ses modalités, ses conséquences. Et je recevrai pour cela Antoine Lilti.
700 millions de Chinois, Emma, avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon poids au foie, j'y pense puis j'oublie.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guérou et Antoine Tricot, réalisée par Alexandre Fougeron cette semaine, avec Clément Berman à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Yves Gaillard. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, j'ai la satisfaction de passer le témoin à Dominique Rousset avec ses invités pour l'économie en question.